En cette douzième semaine de l'Avent, Dieu nous adresse un message d'espoir et de promesse. Ésaïe 40 annonce à son peuple qu'il sera libéré de l'exil et ramené dans son pays. Le premier verset de l'évangile de Marc, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, est un message céleste, comparable à celui du premier chapitre de Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La deuxième épître de Pierre parle de la promesse du Seigneur, de l'espérance d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Mais ici, il y a un grand paradoxe. À l'époque où ces paroles ont été proclamées, les auditeurs vivaient dans des conditions qui rendaient ce message d'espoir, difficile à croire. Au moment où les paroles d'Ésaïe ont été annoncées, le royaume de Juda était tombé. Le temple avait été brûlé. Et Jérusalem n'était qu'une ruine dévastée. Dans le temps où Marc a écrit son évangile, la persécution était plus intense depuis le grand incendie de Rome. Et les apôtres Pierre et Paul ont été martyrisés. En tant que traducteur grec de Pierre, Marc était le témoin de ces persécutions. Lorsque la deuxième épître de Pierre a été écrite, les chrétiens de l'Église primitive, ayant subi les persécutions atroces, ont espéré encore plus l'avènement du Christ. Mais, contrairement à leurs espoirs, l'avènement n'a pas eu lieu. Ils étaient alors inquiets et leur foi était ébranlée. Beaucoup de gens autour de moi disent en ce moment qu'ils ne regardent plus les actualités. Je suis également désespérée par les nouvelles épouvantables qui dépassent les limites du supportable. Mais je me suis ensuite rappelé d'un texte d'une personne centenaire. Il n'est pas exagéré de dire que ces 100 ans de vie ont été des années de guerre. Comment elle, nos ancêtres, ont-ils pu croire et vivre avec l'Évangile au milieu de la guerre et des persécutions et de la mort? Qu'est-ce que l'Évangile? On le sait, on entend tellement souvent le mot Evangelion, utilisé dans le Nouveau Testament, signifie une bonne nouvelle. Il est utilisé pour décrire la nouvelle du salut que Jésus a ouvert aux hommes par sa mort et sa résurrection. Le mot hébreu « Bessora » dans Ésaïe chapitre 40 verset 9 est l'un des exemples de l'évangile utilisé dans l'Ancien Testament pour signifier « joyeuse messagère ». J'ai grandi en entendant le mot « évangile » depuis ma naissance. Pour moi, le mot est si familier que parfois, j'y étais insensible. Mais l'été dernier, une rencontre avec une femme de 39 ans m'a donné l'occasion de me rappeler la signification de l'Évangile. Handicapée physique et mentale, sans famille, elle vivait seule dans un centre et attendait une visite d'un pasteur. Le président du conseil presbytéral et moi-même sommes donc allés la voir. Il n'était pas facile de partager nos pensées parce que nous étions à peine capables d'avoir une conversation ordinaire. Mais surprise, au moment où j'ai prononcé le mot « la bonne nouvelle », tout a changé. Ses joues ont commencé à briller après avoir entendu ce mot. Sa voix était pleine de curiosité en demandant « qu'est-ce que l'Évangile ? Qu'est-ce que la bonne nouvelle ?» Son esprit était comme une éponge qui absorbe de l'eau pendant 4 heures en écoutant l'Évangile. À vrai dire, avant de me rendre là-bas, j'avais passé des jours à réfléchir à la manière dont je pourrais lui présenter l'Évangile. Mais ce jour-là, le Seigneur m'a fait comprendre. L'Évangile n'est pas quelque chose que nous annonçons, mais qui vient à nous de lui-même. Cet évangile a été proclamé par des prophètes tout au long de l'histoire. Ésaïe et Jean le Baptiste, ces prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament, ont préparé le chemin du Seigneur. Par ailleurs, pendant une période de 400 ans avant Jean le Baptiste, Dieu n'a pas envoyé de prophète. Après le prophète Malachie, il y a eu une période de silence, sans aucune prophétie ni vision. Le peuple d'Israël avait traversé une longue période de ténèbres et il attendait avec impatience la nouvelle révélation de Dieu. Jean le Baptiste était le prophète que Dieu a fait apparaître pour rompre ses 400 ans de silence. Et le premier message de la nouvelle révélation était de se repentir. La semaine dernière, il y a eu une table ronde à propos des œuvres de Hublot Montrouge. En prospectiviste, oui, qui est spécialiste de la science-fiction, c'est-à-dire un journaliste et notre pasteur Laurence ont eu une conversation sur le thème « Quelle spiritualité pour demain ?» Il a été dit que les progrès radicaux de la science et les changements de la vie, de vie qu'elle a entraîné ont conduit à l'émergence d'une énorme vague de gens à la recherche de spiritualités alternatives. Yogis, méditants, néo-sorcières, chamans, etc. Personnellement, je trouvais si étrange et paradoxal que tant de gens soient à la recherche de nouvelles spiritualités dans un monde où la science prédomine. C'est alors que notre pasteur a donné la définition de la spiritualité chrétienne. Elle a expliqué que la spiritualité est ce qui nous fait sortir de notre vie horizontale. Selon elle, la spiritualité nous permet de nous ancrer en profondeur en soi et puis d'être interpellé dans une hauteur symbolique, et cette dimension verticale est donc fondamentale. de Jésus. Il y avait les gens qui vivaient une vie horizontale, les pharisiens et sadduciens. Eux, ils pensaient qu'ils devaient se justifier par la repentance en se purifiant chaque jour de leurs péchés. Cela les a conduits à vivre une vie de repentance en observant la loi encore et encore. Mais la Bible dit que la repentance arrive d'une rencontre avec l'Évangile et d'une vie fondamentalement différente de ce qu'elle était avant. La repentance est le salut, donc le fruit de la venue verticale de l'Évangile, mais pas de l'effort humain horizontal. Lorsque Jean le Baptiste a dit « Repentez-vous », c'était un ordre de renoncer aux efforts pour changer sa vie à tout prix et remettre sa vie à Dieu pour qu'il la change. La vie de Jean le Baptiste est un exemple de cette venue, l'Évangile. Il était le fils du sacrificateur Zacharie, le fils unique d'une des familles prestigieuses. Il aurait pu être un grand sacrificateur en portant des robes souples et fréquentant le palais royal. Mais il quitte Jérusalem et entre dans le désert. Il ne porte pas de belles robes, mais des vêtements en poil chameau. Il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage au lieu de nourriture généreuse. Il est passé du rang de fils de sacrificateur à celui de voix dans le désert. Mais lorsqu'il cria à la repentance, la Bible dit que tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendirent auprès de lui pour se confesser et furent baptisés. Cela était possible parce que la vie de Jean s'est passée dans le désert. C'est dans le désert qu'Abraham, Isaac et Jacob ont erré. Moïse a rencontré Yahvé Dieu dans un milieu désertique. David y a vécu une vie communion avec Dieu. Jésus a passé 40 jours de prière dans le désert avant de commencer son ministère. Le désert était donc le lieu où la promesse de l'Évangile s'est accomplie. Le point commun des nombreuses prophéties sur la promesse de la venue de Jésus dans l'Ancien Testament est la promesse de l'avènement dans le Nouveau Testament, c'est que ces promesses s'accompliront soudainement et ce temps est déterminé par Dieu. L'expression « un jour » est comme bilan et bilan sont comme un jour signifie que l'autorité de l'Évangile appartient à Dieu. Lorsque nous nous demandons pourquoi la promesse du Seigneur tarde, nous devons nous rappeler que l'amour du Seigneur attend notre repentance pour nous sauver tous. Lorsque la vie ressemble à un désert, nous devons nous souvenir que c'est là que l'Évangile est présent. Quelle que soit l'ampleur de notre souffrance, Jésus l'a déjà vécue et est ressuscité. Dieu ne nous laisse pas seuls dans le désert. La naissance de Jésus est un signe de l'amour de Dieu, qui désire partager nos vies dans le désert. Je souhaite que nous vivions tous ces semaines dans cet évangile, au fond de notre cœur, dans l'attente de sa venue. Amen.